Bonjour Mariette Navarro.
Bonjour.
Je vous remercie de nous accueillir par téléphone pour nous parler de votre pièce Zone à étendre à l'occasion du passage de cette pièce à Vassieu-en-Vercors les 25 et les 26 février.
Oui, merci à vous.
On vous a demandé un entretien parce que ça nous intéresse de découvrir cette pièce avec vous pour après avoir encore plus envie d'aller la voir. La première question qui me vient à l'esprit, c'est dans ce titre, Zone à étendre, il y a une résonance avec Zone à défendre. Est-ce que cette résonance est recherchée ou...
Oui, tout à fait. Le titre est venu un peu à la fin de l'écriture de la pièce. Et en effet, je voulais qu'il y ait un petit clin d'œil à quelque chose d'actuel. Parce que la pièce, finalement, peut se passer peut-être à d'autres époques, mais en tout cas, elle est moins située. Elle est plus onirique. Mais j'avais envie de mélanger une chose un peu magique, peut-être comme dans Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, où on a des personnages qui errent dans la forêt et puis que ça va changer leur perception du monde, et une chose plus politique et plus actuelle. Voilà, c'était un petit peu un jeu entre ces deux extrémités.
Bah, c'est réussi au niveau de l'évocation parce que voilà, on pense zone à étendre, ça nous évoque zone à défendre et c'est pas exactement la même chose. Et donc c'est une forêt onirique dont vous parlez. Je dirais que l'indice qu'on a, c'est que on comprend que nous ne sommes pas dans la forêt tropicale comme vous dites dans cette pièce.
Oui. On est. C'est vrai que mon point de départ était, même si à la fin il y a beaucoup d'éléments politiques dans cette pièce, mais mon point de départ il était plus littéraire et sur justement l'imaginaire de la forêt, que ce soit dans les contes, mais aussi dans les pièces de Shakespeare. Justement, je parlais du songe d'une nuit d'été, mais il y a aussi la pièce qui s'appelle Comme il vous plaira, où on a un roi qui est exilé et qui part en exil avec toute sa cour. Et il part dans la forêt et il se réinvente une vie un peu sauvage, un peu. Et donc c'est comme une communauté qui se réinvente dans la forêt. Et quand j'ai lu ces pièces-là, je crois que ça m'a vraiment marqué en termes d'imaginaire, de me dire, c'est vrai qu'au théâtre, ça donne envie de mettre la forêt sur scène, de mettre la forêt sur le plateau. Je pensais aussi à des légendes comme Robin des Bois, des choses comme ça où en fait la forêt permet de redistribuer les cartes, déjà de nos sensations physiques, de nos perceptions, mais aussi des relations entre les personnages et que ce soit comme un nouveau monde en fait à explorer cette forêt. Donc c'est vrai que je me suis plutôt appuyée sur l'imaginaire d'une forêt qui pourrait être celle aussi je sais pas, du Moyen-Âge, ou voilà, un imaginaire un peu partagé par la littérature, quoi, de la forêt.
Ce qui est intéressant dans cette forêt, c'est que elle ne s'oppose pas par son côté sauvage à la ville. Vous dites, par exemple, que elle pourra tomber la frontière entre la ville et la forêt.
Oui, parce qu'à un moment, en écrivant, j'ai eu peur que ce soit trop manichéen, c'est-à-dire je voulais pas non plus. Pour moi, il s'agit d'inventer d'autres façons de vivre, mais l'exil en forêt est une des façons, mais je pense qu'on peut tout à fait se réinventer sans fuir, sans partir, réinventer chez soi, réinventer en ville. Et j'avais peur qu'on lise une opposition un peu trop manichéenne ou un peu trop caricaturale, parce que pour moi, le sujet, c'est pas de quitter nos modes de vie actuels pour un retour à la nature. C'est plutôt comment se dire qu'on ne fait plus partie d'un système qui ne nous convient plus. Mais la forêt, elle est une métaphore et ce n'est pas une idéalisation. Je pense qu'on peut tout à fait quitter un système en restant en pleine ville, en se réunissant sur les places, comme on en parle dans la pièce, en investissant des lieux abandonnés dans les villes, ou même en restant chez soi. Voilà, c'est vraiment plus une métaphore, cette forêt, et je voulais surtout pas que ce soit une vision peut-être un peu naïve de dire bon, il faut qu'on retourne à la nature et qu'on abandonne tous nos acquis contemporains, parce que c'est pas de ça dont il s'agit.
C'est-à-dire que vous avez voulu fuir les clichés du retour à la vie sauvage, on va dire.
Oui, voilà, c'est pas une pièce là-dessus. Puis d'ailleurs, les personnages, ils sont bien embarrassés dans la forêt, parce qu'assez vite, ils ont froid, ils ont mal aux pieds. Enfin, voilà, j'avais envie de m'amuser.
Ils rêvent même d'un restaurant japonais à un moment donné.
Oui, voilà, parce que c'est pas idéal pour, je pense que pour beaucoup d'entre nous, si on devait vraiment le faire tout d'un coup, d'aller vivre en forêt et de tout quitter, bah, ça poserait beaucoup plus de problèmes que ça n'apporterait de solutions. Donc c'est je voulais aussi sourire de ça, et voilà, c'est pas une pièce sur un retour à la nature. Par contre, c'est une pièce sur comment les personnages collectivement vont faire un pas de côté et s'extraire de quelque chose de leur vie quotidienne, de leur travail peut-être, pour juste se décaler et voir les choses autrement. Et aller dans la forêt, pour eux, c'est la possibilité de vivre une expérience qui leur fait voir les choses différemment.
Vous l'avez dit, vous n'avez pas voulu donner une idée cliché de la vie en forêt totalement idéalisée. Et pour ça, vous venez de le dire, vous avez écrit aussi des moments d'inconfort. Et ces moments d'inconfort, ils sont aussi exprimés à travers des sensations des corps dans la nature. Quel est le rôle des corps et du mouvement des corps dans l'écriture de cette pièce ?
Et bien, c'est vrai que là, c'est un aspect très important de mon travail, mais aussi dans d'autres textes, où je crois que parfois on me demande comment moi je verrais la mise en scène de mes pièces, et je vois pas forcément de mise en scène. Je vois pas forcément dans quel espace ça va se passer. Je suis pas du tout metteuse en scène de mes propres pièces. Par contre, je crois que ce que j'imagine et ce que je mets dans les textes, c'est une énergie des corps. Je sais qu'il va y avoir des corps qui marchent ensemble, des corps qui fatiguent, des corps qui s'opposent, des corps qui se retrouvent. Enfin, et ça, je crois que c'est vraiment constant dans ce que j'écris, peut-être parce que j'aime beaucoup, en tant que spectatrice, la danse aussi. Et puis, je travaille avec une chorégraphe depuis quelques années, qui s'appelle Marion Lévy, et on fait beaucoup de spectacles où le texte et la danse se rejoignent, parce que pour moi, il y a une énergie commune à la parole et au corps. Et puis aussi parce que l'autre raison, c'est que je voudrais pas que mes pièces, ou c'est la même chose aussi dans mon roman, soient trop des idées, parce que moi, je pense qu'un écrivain, il a pas forcément des meilleures idées que les autres, et il n'a pas forcément quelque chose à dire que les autres ne savent pas. Enfin, on a quelque chose à dire, mais j'ai pas envie de faire la leçon ou d'arriver avec de la théorie.
Et c'est pour ça que, loin de la théorie, vous avez su rendre pas seulement les corps des humains, qui sont bien sûr au centre de votre culture, mais aussi les corps d'autres vivants, et les corps par différentes sensations, l'huile, la toucher. Et oui. Comment vous êtes arrivé à rendre la texture du vivant de manière concrète? Comment vous vous êtes prise pour exprimer ça, et finalement avec pas beaucoup de mots, parce que c'est pas une pièce très bavarde, on va dire.
Oui, j'essaie de travailler sur une économie et des images, en fait. J'essaie de passer par des images. Et pour les sensations physiques, j'ai l'impression que parfois l'état dans lequel je suis pour écrire peut ressembler à celui d'un acteur ou d'une actrice avant d'entrer en scène, où il y a quelque chose où on se remet dans un certain état physique, dans des sensations. Enfin, ça fait beaucoup appel, l'écriture, à une mémoire aussi sensorielle. Évidemment, moi, je n'ai pas fait cette expérience-là de partir plusieurs jours dans la forêt et de connaître tout ça, mais je pense que la sensation de froid, de faim, l'humidité, la peur, on l'a en partage, on l'a en commun. Et en fait, j'essaye de reconvoquer des sensations un petit peu archaïques, comme ça, primitives, qu'on a tous ressenti à un moment donné, quelle que soit l'échelle, même dans des situations banales, mais qui sont ce qu'on a aussi en partage. Et je me dis que justement pour faire passer des idées ou des questionnements sur le monde. Je passe souvent par cet outil-là très concret, des sensations, parce que je pense que c'est plus partageable facilement qu'une théorie, encore une fois, ou des idées abstraites. Et je me dis que si j'arrive à faire ressentir, ne serait-ce que par juste des mots ou des images, bah, ce que c'est que d'avoir froid, ce que c'est que de se sentir dans une certaine insécurité physique, je peux faire comprendre eh ben, le risque que prennent ces personnages, qu'est-ce que c'est de sortir de sa route toute tracée, qu'est-ce que ça raconte dans l'intimité aussi. Donc, je travaille comme ça, comme par petites touches un peu physiques, pour peut-être mettre le spectateur et le lecteur dans un état proche que celui des personnages et créer comme ça une communauté, mais par le corps.
À un moment donné, vos personnages, disent, ça gratte, ça pique, on a la
Et
sensation de sentir avec eux ces
oui.
picotements.
Oui. J'avais envie que la pièce, elle commence comme ça dans l'obscurité avec la nuit. Enfin, je pense que ça, c'est l'influence du songe d'une nuit d'été aussi de Shakespeare. Mais on envie que ça commence la nuit et qu'on ne sache pas du tout avec le personnage où on est, qu'est-ce qui se passe vraiment, mais que ce soit juste comme quand on est dans l'obscurité, toutes les sensations sont un peu grossies, sont un peu. On ne sait plus trop, on ne peut plus faire confiance tout à fait à nos sens. J'avais envie que vraiment on parte de cette perte de repère totale pour petit à petit découvrir où on est et retrouver le chemin avec les personnages.
Et comment ces corps humains qui sont pleins de sensations, et dans votre pièce, ils sont reliés à d'autres vivants?
Oui, en tout cas, ils se rendent compte en arrivant dans la forêt que. Et ben que qu'ils sont pas seuls et que finalement je sais plus comment je l'écris exactement, mais il y a cette idée qu'on arrive avec nos gros pas là, donc on est maladroit, les humains on fait du bruit, on n'est pas discret, on a donc voilà, ils se posent la question de leur place en fait dans une forêt où il y a déjà un écosystème qui se passe très bien des êtres humains, qui a pas besoin d'eux, qui a pas besoin de nous. Et ça, j'avais envie de m'en amuser de ça, de parfois l'impression que les humains, en tout cas dans notre culture, on est au centre de tout et que on est indispensable. Alors qu'en fait, là, en arrivant dans la forêt, ils sont les intrus, quoi. Personne n'a besoin d'eux et c'est plutôt eux qui vont se sentir observés. Gênés, inquiétés par les animaux qui sont là. Mais en même temps, et ben les animaux peuvent inspirer aussi des façons d'être. J'ai utilisé parfois des noms d'animaux comme petits titres des fragments pour comme le hibou, le renard, parce que des situations animales peuvent nous éclairer aussi sur des situations de vie en société.
Et donc, au milieu de toutes ces sensations et dans leur coprésence avec les autres vivants, dont ils se rendent compte un peu graduellement, et les personnages y rendent une clairière habitable. Qu'est-ce que c'est? Comment vous avez pu écrire l'effet d'habiter un lieu qui n'est pas très intuitivement fait pour habiter?
Alors là, je me suis un petit peu inspirée d'expériences réelles. J'avais lu quand même, c'est là où j'ai un peu quitté la littérature pour arriver plus sur notre monde contemporain. J'avais lu pas mal de témoignages justement de zones à défendre ou d'endroits comme ça qui sont investis, des squats, des endroits de nature un petit peu. Qui sont habités. Donc là, je me suis inspirée de choses existantes, mais en l'exagérant un peu, c'est-à-dire en imaginant qu'il y aurait même un hôpital, qu'il y aurait même. Donc ça, à ma connaissance, je crois pas que ça aille jusque-là dans les ZAD, mais finalement, il y a quand même une organisation où chacun arrive avec son savoir-faire et que on arrive à recréer des espaces vivables. Et surtout autonome, je crois qu'il y a cette idée de vraiment tellement fuir le pouvoir en place que, eh ben, qu'on est obligé de tout refaire, de tout recomposer soi-même, en fait. Donc, voilà, donc là, c'est vraiment à la fois mon imagination, parce qu'évidemment, je pense que ça ne ressemble pas exactement à la réalité. C'est pas, je ne suis pas allée dans la ZAD pour me documenter. J'avais envie de prendre le réel, mais d'en faire quelque chose d'un peu déformé, exagéré, poétique, en imaginant qu'il y a surtout des femmes qui tiennent cette communauté, en imaginant que. Et ben que on a vraiment tous les services possibles en même temps en étant complètement autonome. Voilà, c'est des allers-retours entre des vrais témoignages et puis mon imaginaire et puis aussi l'imaginaire presque du jeu d'enfant, c'est-à-dire d'imaginer un nouveau monde à partir de rien et de tout reconstruire par l'imagination.
Et il y a toute une tension qui traverse cette pièce avec ce qui est, lui est extérieur, c'est-à-dire avec les mondes que les personnages ont laissés derrière, mais aussi les mondes du pouvoir, comme vous venez de le dire. Et cette tension, elle s'exprime par des moyens différents. À un moment, il y a un peu de nostalgie pour certains éléments de la vie d'avant, mais aussi il y a une tension autour du fait d'être en conflit ou pas avec ce qui reste derrière. On va dire, à un moment, on dit ce n'est pas une guerre, point d'exclamation, mais puis à la fin, on parle de combat. Est-ce que, donc il y a toute une tension autour de cette idée d'être en conflit ou pas avec ce qui n'est pas encore installé dans la forêt.
Oui, parce que moi j'imagine que, bon là c'est vrai que j'emprunte plus à la réalité, mais qu'à partir du moment où vraiment une communauté s'organise, où il y a des points de résistance qui deviennent un peu sérieux aussi, et des zones à étendre qui deviennent conséquentes, là ça devient un danger pour le pouvoir en place, et là l'offensive peut se mettre en place. Tant que c'est que quelques personnes comme ça qui s'en vont, tant que c'est pas encore dangereux, en effet, c'est pas directement une guerre, c'est plus. Mais à partir du moment où j'imagine que et ben, ça devient un vrai mouvement de société et une vraie opposition, là, ça commence en effet à devenir plus tendu et puis avec des évacuations, mais comme elles ont eu lieu dans la réalité. Le jour où j'ai terminé ce texte, ben c'est tombé ou le jour où il a été publié, je sais plus, mais ça tombait pile le jour d'une des évacuations à Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est évidemment aussi en lien avec la tension qui est réelle à partir du moment où on occupe un espace sans autorisation et avec un discours d'opposition politique.
Et quel est le rôle des mots dans la possibilité, dans l'espoir de ces mouvements? Une des expressions qui m'a le plus frappée dans la pièce, c'est l'idée de faire une clairière, un atelier des contre-mots. Qu'est-ce que c'est un atelier des contre-mots et quel est le rôle des mots dans cette imagination mais possible que vous avez créée avec vos mots?
Eh ben, c'est vrai que moi, une des préoccupations que j'ai aussi de texte en texte, c'est à quel point on est aussi dans un système, pour dire un mot un peu vague, mais qui vide le langage souvent. Et je trouve que ça, on l'a un peu dans tous les domaines. D'un coup, les mots ne veulent plus rien dire. On le voit dans évidemment la parole politique où on peut dire une chose et son contraire, ça n'a plus de poids, ça n'a plus de. Ou alors tous les mots qui sont inventés un peu dans la terminologie libérale où à la fin on ne sait plus de quoi on parle et surtout un mot peut complètement être retourné, vidé de son sens. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, en tant qu'autrice, ou moi, mon seul outil de travail, c'est les mots. Bah, je suis très attentive à ça, à des glissements de sens, ou un mot qui est employé à tort et à travers, aussi Bah, par la communication, par la parole politique, dans certains métiers aussi. Il y a tout à coup toute une parole un peu. On parle de novlangue parfois, des nouveaux mots qui s'inventent, mais qui masquent aussi des réalités. Voilà, soit violente, soit détournée, soit. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui se joue au niveau du langage. Et du coup, je me dis que peut-être une des voies d'émancipation politique ou de reprise en main du politique, c'est pas reprendre en main son langage, ne pas parler avec les mots des autres, ne pas parler avec les mots de l'ennemi, entre guillemets, c'est-à-dire les mots qu'on invente pour nous, mais qui ne sont pas des mots dont on peut se saisir. Voilà. Oui, toute la novlangue un petit peu politique, libérale, économique, je pense qu'elle fait du mal parce que les mots qu'on utilise, c'est notre pensée aussi. Ça vient dessiner, ça vient. Voilà,
Donc, pour
je
reprendre votre expression, un atelier des contre-mots serait un atelier où on redonnerait du sens, un autre sens, aux mots qui l'ont perdu.
Oui, aux mots et puis au récit aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un enjeu du langage, c'est aussi de faire nos propres récits et pas seulement de se contenter de la façon dont l'information peut être traitée rapidement, de façon partielle, voire déformée. Donc c'est vraiment le récit comme arme aussi pour exister et pour ne pas être invisibilisé. Enfin voilà, il y a toute cette chose aussi qui me préoccupe parce que bah, si, quand on enfin je pense que c'est vraiment un enjeu de pouvoir fort, parce que si on n'a plus que les mots qui ne sont pas les nôtres et que les récits qui ne sont pas les nôtres, ben on peut plus penser en fait, on peut plus, et donc on peut plus penser autrement.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Non, ben je sais que moi je n'ai pas encore vu cette mise en scène, mais que je me réjouis vraiment que des équipes s'emparent de mon texte, parce que comme je disais, moi je ne suis pas à mes origines, donc il y a toute une part que d'autres vont apporter aussi avec le choix des acteurs, le choix des lieux, comment ça va être joué, et ça c'est une dimension très importante. Et j'ai beaucoup de chance que mes pièces puissent être jouées et qu'un autre collectif, puisque ça parle du collectif aussi, ça parle de comment on s'organise collectivement, ben le théâtre c'est aussi ça. Et donc j'ai beaucoup de chance que cette pièce, elle est touchée d'autres et qu'elle ait donné envie de se lancer dans une aventure théâtrale. Et j'espère qu'elle saura aussi conquérir les spectateurs et les embarquer dans cette petite communauté imaginaire de théâtre.
Les choix des lieux, notamment, sera super important pour définir la mise en scène parce que c'est pas, ça se joue pas sur un plateau et donc ça défie
Oui.
aussi l'imagination des réalisateurs, la forme même de votre texte.
Oui, parce que c'est écrit sous forme de petits fragments, et en effet, tout le travail là de mise en scène des équipes, c'est aussi d'imaginer, et même du spectateur, parce que ça demande beaucoup de projection, d'imagination, c'est d'imaginer ce qui se passe entre les moments qu'il y a écrits, tout le reste, toute la marche. Oui, j'avais envie que ce soit vraiment un texte qui puisse apporter une forme de liberté. Par exemple, je n'ai pas défini dans la pièce ni le nombre de personnages. On sait que c'est une personne différente qui parle à chaque fois parce que je saute une ligne, mais c'est après aux metteurs en scène et aux acteurs de refaire leur parcours à l'intérieur et de décider et de redessiner eux des personnages qui vont aussi leur correspondre.
Oui,
Donc
donc
c'est
il y a
comme
un
si on
espace
entendait les voix.
grand qui est laissé à la création artistique au moment de la réalisation et puis même de
Oui,
l'interprétation.
Moi, je me suis dit que je n'écrivais que les voix qu'on entend
Oui.
et que par contre, le metteur en scène, les acteurs s'occupent de ce qu'on va voir, de ce qu'on va. Et puis le spectateur a aussi une projection et je pense beaucoup de choses à compléter, à imaginer.
Merci Mariette Navarro d'avoir été avec nous.
Eh ben, merci beaucoup pour votre écoute et puis j'espère que vous pourrez, voilà, que vous serez nombreux à pouvoir aller découvrir ce spectacle.
Nous
Merci.
invitons tous les auditeurs, auditrices à aller voir le spectacle Zone à étendre à Vasseur-en-Vercors les 25 et les 26 février.
Merci.
Merci.